Radio Foot International. Spécial UEFA Euro 2024 avec Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de débuter la semaine en votre compagnie dans Radio Foot. Comme un lundi un peu spécial quand même. Peut-être au soleil avec un coin de ciel bleu. La France en aurait bien besoin. C'est en tout cas le souhait de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers. Ses coéquipiers de toutes les couleurs. Et on s'en réjouit. La France, la vraie, la métissée, affronte la Belgique en 8e de finale de l'Euro. Duel de voisins. Première mi-temps à suivre en fil rouge dans notre émission. Avant de rejoindre Antoine Grenier à Düsseldorf, je vous présente mes voisins à moi, mes voisins de table. Bonjour Hervé Penaud.
Bonjour à vous, quel plaisir d'être en votre compagnie avec un tellement beau match.
Plaisir partagé, très beau match effectivement. Et très beau plateau, puisque vous êtes à ma gauche et à ma droite. Rien à voir avec la politique, je précise. David Lantolari, bonjour David.
Bonjour Hugo, bonjour à tous, un plaisir partagé.
Nous reviendrons également avec vous deux sur les matchs du week-end, les qualifications de l'Espagne, de l'Angleterre, de l'Allemagne, pour les quarts de finale donc de l'Euro. L'Italie, tenante du titre, a pris la porte quant à elle. Radio Foot, c'est parti.
Antoine Grenier,
live von der 2024 Euro in München. Danke.
La vraie sensation de cet Euro allemand, c'est le jingle sur mesure pour notre envoyé spécial Antoine Grenier. Bonjour Antoine.
Bonjour Hugo, bonjour messieurs, bonjour à tous. Sur mesure, il est peut-être un tout petit peu grand pour moi quand même.
Et pourtant, vous avez des épaules, vous êtes carré. Düsseldorf, là c'est du rectangle vert. Le huitième de finale tant attendu, peut-être le plus séduisant sur le papier de cet Euro entre la France et la Belgique. C'était une demi-finale de Coupe du Monde il n'y a pas si longtemps que cela. 13e minute de jeu, le score Antoine.
Toujours 0-0 entre les Belges et les Français dans une opposition de style sur le papier très clairement, parce que là où Didier Deschamps a certes un petit peu remanié son équipe pour essayer de faire jouer ensemble Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Marcus Thuram, Domenico Tedesco, le sélectionneur belge, lui, il a décidé d'assumer l'attaque. 5 joueurs offensifs, Jérémy Doku, Luis Openda, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Cédric Carrasco dans le 11 de départ de cette équipe de Belgique. Pour l'instant, ce sont les Français qui dominent, qui se sont créés, allez, on va appeler ça des occasions, même si c'est un petit peu généreux de les appeler comme ça. Et une, il y a quelques instants, avec un bon 1-2 entre Griezmann et Koundé, et le latéral droit de cette équipe de France, qui plutôt que de frapper alors qu'il est à 2 mètres du but dans un angle fermé, centre pour personne. Voilà un petit peu le symbole des difficultés offensives de l'équipe de France depuis le début de cet Euro. Les Français qui ont un corner à jouer avec Hernandez, Mbappé, on est sur le côté, Mbappé dans la surface, il va armer la frappe et ça s'envole, on reste à 0-0 entre la Belgique et la France.
Hervé Penaud, vos premières impressions à l'orée du quart d'heure de jeu à Düsseldorf, ce match entre la France et la Belgique?
Un début de match pas inintéressant de la part des deux équipes. On a vu que les Belges allaient tenter de jouer un peu sur la vitesse de leurs hommes de couloir, évidemment. Avec Openda qui a été utilisé plus Jérémy Doku, avec ses dribbles. Mais les Français entament plutôt pas mal, je trouve, cette rencontre-là. Et on va voir maintenant la suite. Sauf que Tchouaméni a pris un carton jaune un peu bête pour avoir un peu gueulé contre une décision arbitrale pour un corner qui était évident, mais malheureusement l'arbitre ne l'avait pas vu. Mais enfin, c'est vrai que prendre un jaune là-dessus, attention, c'est le genre de carton jaune qui peut vous faire mal.
Il y a de la tension, c'est normal. David Lortolari, Tedesco, le sélectionneur de la Belgique, alors porte un nom italien. Tedesco, ça veut dire l'allemand, je crois.
Oui.
En italien, il est un peu italien, il est aussi un peu allemand, il a entraîné en Allemagne. Vous êtes peut-être un connaisseur de son œuvre, et est-ce que vous êtes admiratif de ses choix tactiques, de son choix de lancer enfin Openda dans cet Euro.
Bah, Tedesco, ça a été la sensation très tôt dans sa carrière. Lorsqu'il était arrivé à Schalke, il avait pris en main Schalke, qui était en première division à l'époque. C'était la une de tous les magazines spécialisés et des journaux, parce que c'était le petit génie qui arrivait. Je crois que, de mémoire, il était devant Julian Nagelsmann lorsqu'ils ont passé le diplôme. Il avait eu la note absolument parfaite. C'est un génie de l'entraînement dans ses études d'entraîneur. Donc ça, c'est un premier truc que les Allemands ont retenu. Et on a peut-être dans ce premier quart d'heure l'illustration de ce qu'on imagine. C'est-à-dire qu'une fois que les matchs de poule sont terminés, on bascule dans toute autre chose, dans un tout autre monde. J'ai été déçu par la Belgique, notamment dans son dernier match, mais pas seulement. Et là, on a un peu plus de courage, au moins sur le terrain, un peu plus de volonté de produire du jeu. Et Tedesco a fait entrer notamment Openda d'entrée. C'est un entraîneur qui peut être offensif et j'espère que ça va ouvrir le match.
Antoine Grenier, une petite minute pour nous raconter ce qu'il est en train de se passer à Düsseldorf alors qu'on a franchi le quart d'heure de jeu.
Avec à l'instant Cédric Carrasco qui a tenté un déboulé sur le côté droit. Il est arrivé aux abords de la surface mais parfaitement arrêté par la défense française. Et les Bleus ont clairement le pied sur le ballon depuis le début de cette partie, même s'ils n'en font pas forcément grand chose. On a vu 2-3 mouvements intéressants, notamment entre Griezmann et Mbappé à la 10e minute, même s'ils ne se sont pas entendus ensuite parce que Griezmann voulait mettre le ballon en profondeur sur Mbappé qui l'attendait plutôt dans les pieds. C'est arrivé directement dans les gants de Koen Castels, le gardien de Wolfsburg en Allemagne. Encore un qui joue en Allemagne, il y en a quelques-uns dans cet Euro, des joueurs qui évoluent en Bundesliga. Carrasco bien arrêté par Théo Hernandez et un corner à suivre pour l'équipe de France qui va être frappé par Antoine Griezmann. Ça va être rentrant avec son pied gauche.
Allez, vous avez le droit à un petit peu de temps additionnel, on va suivre le corner.
Poteau, et puis après on enchaînera. Marcus Thuram, pas cadré la tête de Marcus Thuram au premier poteau. On en reste à 0-0 entre la France et la Belgique.
17e minute de jeu, Antoine Grenier, on reviendra vous voir. Ou plutôt vous parler à Düsseldorf s'il se passe quelque chose dans ce 8e de finale événement entre la France et la Belgique, 8e de finale de l'Euro. En attendant, on va revenir sur le week-end, les premiers 8e de finale du tournoi allemand. Le week-end, votre week-end, mesdames et messieurs qui nous écoutez.
C'est Joe, je vous appelle de Londres pour saluer la victoire des Three Lions de l'Angleterre. Ça n'a pas été facile à la dernière minute. La média anglaise, vraiment, la manière dont ils s'en prennent à Southgate, c'est doucement. On ne dit pas que l'équipe est en train de bien performer, mais il est en train de faire son petit bout de chemin. On ne sait jamais. L'équipe peut aller gagner la coupe. C'est pas la meilleure équipe qui gagne. C'est l'équipe qui va avec une bonne stratégie et aussi avec des guerriers.
Je salue la prestation XXL pour l'Espagne, vraiment, et le retourné acrobatique de Jude Bellingham à la Madrid depuis le Congo-Brazzaville, Monsieur Zabino Lacola.
Moi, c'est Abakar Mohamed Zoum depuis N'Djamena. À mon avis, la Suisse peut aller très loin avec des jeunes qui ont beaucoup de confiance. Et l'Espagne, à mon avis, ils peuvent aller voir même la finale parce que personne ne peut les arrêter, au moins jusqu'à maintenant.
Tony depuis Yaoundé, j'aimerais saluer la brillante qualification de la Nati en quart de finale. On parle là d'une équipe qui va dans toutes ses compétitions en outsider. Félicitations à son solide capitaine, Granit Xhaka. En prélude au quart de finale face aux Anglais, ça sera un match âprement disputé, mais je mettrai quand même petite pièce sur les Helvètes pour les demi-finales.
Je suis ici fidèle depuis Lubumbashi en République démocratique du Congo. Je vois que l'Allemagne ainsi que l'Espagne sont les grandes équipes qui respectent leur rang. La France, la Belgique, l'Italie, l'Angleterre ne font que décevoir jusque-là.
De nos auditeurs qui ont du talent et des avis, vous les avez entendus, petit bémol, ils auraient pu parler de la Géorgie. Eh oui, bah alors faut qu'on fasse le travail nous-mêmes.
Varane dans la surface, et l'ouverture du score signé Varachrelia qui permet à la Géorgie de mener 1-0. L'égalisation géorgienne par Giorgio Mikotadze.
That is one of the most incredible results you will ever see at a major tournament.
Mikotadze, et ça passe, ça fait 2-0 pour la Géorgie qui prend son envol.
I feel very proud to be their manager. The only responsibility we had at the beginning of the competition was to make the Georgian nation proud.
La Géorgie écrit une page d'histoire.
We've done it the best way.
Very proud, le Willy Sagnol à grand renfort d'effets sonores à la Mathieu De Gueldre, manette, on salue. Ça doit vous faire plaisir, David Lortolari, vous le Stéphanois de cœur, l'ancien exact. Enfant des Verts de Saint-Etienne, hein, devenu sélectionneur de la belle histoire de l'Euro, Willy Sagnol, qui entre-temps a été un latéral de classe mondiale, je le rappelle pour les plus jeunes, Monaco, le Bayern, avec une Ligue des Champions, ou encore l'équipe de France, finale de Coupe du Monde à la clé. Entraîneur à Bordeaux également, on a encore un peu du mal à lui pardonner ses propos hasardeux sur les joueurs africains. Toujours est-il qu'avec la Géorgie de Mikotadze et de Gvara, il aura marqué les esprits cet été. Première participation, premier but, premier point, première victoire contre le Portugal s'il vous plaît. Premier huitième hier, premier but du match même face à l'Espagne. Défaite 4-1 à l'arrivée, élimination, il n'empêche, Georgia on my mind pour citer une célèbre chanson. Et vous ? Hervé Penaud, est-ce qu'elle a laissé une belle empreinte dans votre esprit, cette équipe georgienne dans cet Euro ?
Superbe empreinte. Je crois que c'est un peu l'une des équipes coup de cœur de ce début de compétition, parce que quand vous avez autant de qualifiés, autant d'équipes qui viennent en Allemagne, à un moment, il faut parfois s'enthousiasmer, s'emballer pour des équipes moins connues, parce que les autres, on aura l'occasion de les voir jusqu'à la finale. Tandis que là, c'était vraiment l'équipe inattendue. Ils ont fait encore un match incroyable, simplement face à une opposition qui était meilleure. Hein. Ils ont marqué un but un peu chanceux, mais enfin le centre était beau. Mais de l'autre côté, quand l'Espagne se met en route, bah, après, soit votre gardien arrête à peu près tout, ce qu'il a fait, parce qu'ils prennent 4-1, mais il y a au moins 4 ou 5 arrêts décisifs du gardien, plus 2, 3 ou 4 occasions manquées à côté. C'est-à-dire qu'ils auraient pu prendre aussi quand même un bouillon. Mais ce qu'on a vu de cette équipe, c'est une équipe enthousiasmante, qui n'avait pas peur de jouer avec deux attaquants de très haut niveau, hein, Mikotadze et Kvara, qui est le joueur de Naples, qui est capable d'exploits incroyables, d'éliminer 2-3 joueurs dans un petit périmètre. Donc ça a donné vraiment l'impression d'un souffle d'air frais qui allait emporter un peu cet Euro. Maintenant, quand les Espagnols se sont mis un petit peu à régler la mire, là, ça devenait quand même compliqué. Vous ne pouvez pas résister à cette équipe d'Espagne capable de vous monopoliser, cacher la balle pendant 10 minutes, un quart d'heure, sans qu'à un moment, vous soyez un peu en difficulté sur déplacement et vous fassiez les erreurs qui entraînent des buts.
David Lortolari sur Willy Sagnol, donc Stéphanois comme vous et
ah, il est Stéphanois, entraîneur, l'homme du Bayern.
Il est c'est rigolo, supporter, hein. supporter des Verts et, oui, et qu'il travaille un petit peu avec son maillot du Bayern. Hein, ouais. Et évidemment,
pour brouiller les pistes.
Les nostalgiques de 76 vous en voudront. Sagnol, sa réussite avec la Géorgie. Vous avez écrit il n'y a pas longtemps un livre sur les déshérités, si je puis dire, du football européen avec toutes les réformes. Larry Bosman notamment, le fait de voir dans cet Euro à 24 souvent critiqué un petit pays entre guillemets en termes de football se frayer un chemin, ça rappelle aussi un peu l'Islande quart de finaliste en 2016,
oui.
C'est plaisant, c'est une bonne pub pour le football européen à cet Euro à 24.
Oui, avec le panache, alors Hervé a donné plein d'ingrédients, il y a effectivement deux super joueurs devant et notamment Kvaratskhelia qui le panache c'est individuellement il l'a, il y a le collectif, il y a un gardien de but qui a fait des choses super, il y a aussi les regrets qui vont bien avec l'histoire parce que, comme le disait très justement, me semble-t-il, Sagnol après le match, si on arrive à basculer, alors c'est un premier si, certes, mais si on arrive à basculer à la pause avec 1-0, on est peut-être encore plus gonflé et on peut faire douter un petit peu l'Espagne qui malgré tout prend le dessus en seconde période et l'écart à l'arrivée peut sembler légitime. Mais un bon tournoi, une qualification, on sort des poules, on existe. C'est un pays qui a souffert aussi sur le plan géopolitique dans les dernières années. Willy Sagnol, Flankengott, le dieu des cendres, quand il était au Bayern, évidemment, nous parle aussi à nous. Et bah, il nous a donné une promesse, Hugo, parce qu'il a dit que ça n'était qu'un début et qu'on allait revoir la Géorgie ultérieurement. C'est ce qu'on peut souhaiter à ce pays.
Oui, lui aussi a fait la jonction de 1976, finale de Ligue des Champions de Saint-Etienne au Bayern Munich. Et ça lui a plutôt souri en tant que joueur des Français qui cartonnent en Géorgie, qui ont un peu plus de mal à Düsseldorf face à la Belgique avec leur propre pays et leur maillot blanc. Antoine Grenier, grosse occasion belge à l'instant.
Oui,
Mais je suis pas forcément d'accord avec vous, Hugo, parce que les Français, ils cartonnent, ils en ont déjà pris 3. Effectivement, énorme occasion belge à l'instant pour une faute d'Antoine Griezmann aux abords de la surface de réparation. Et le malicieux Kevin De Bruyne qui est venu placer un coup franc des 20 mètres, il l'a fait rebondir juste devant Mike Maignan qui a dû sortir un arrêt réflexe du pied sur sa ligne.
Oui, hommage au sport national, hommage au handball pour Mike Maignan.
Oui. Il était un peu sur ses talons sur ce coup-là. Mais bon, bel arrêt malgré tout.
Le sport belge, c'est plus le hockey sur gazon. Mais c'est vrai que sur gazon, ils se débrouillent toujours bien, les Belges. Et ils arrivent à exploiter le peu d'occasions, le peu de ballons qu'ils peuvent avoir pour s'approcher de la surface de réparation. Et les Français, en face, tombent un petit peu dans un excès d'engagement. Je vous le disais, 3 cartons jaunes. Déjà un pour Aurélien Tchouaméni tout à l'heure pour contestation. Antoine Griezmann, sur la faute qui amène le coup franc de De Bruyne, dont on vient de parler, également a pris un carton. Et Adrien Rabiot, à l'instant. Rabiot qui sera suspendu pour le prochain match. En attendant, bientôt 26 minutes de jeu ici à Düsseldorf, toujours 0-0 entre la France et la Belgique.
Et vous nous rappelez, Antoine, hein, dès qu'un joueur français fait une faute sans prendre un carton, ce serait un événement dans cette première période. Vous n'êtes pas très content de l'arbitrage?
Non, je trouve l'arbitrage absolument incroyable, parce que Rabiot, je ne vois pas comment il peut prendre un carton jaune là-dessus, c'est incroyable. Et même Griezmann, on peut estimer qu'il y a faute, pourquoi pas, mais je ne vois pas comment il peut prendre un carton jaune là-dessus. Alors attention, parce que ça veut dire que c'est un arbitre qui sort.
Openda dans la surface, le centre, il est repoussé, la frappe, elle est contrée, et la frappe de Cédric Carrasco, contrée par Adrien Rabiot dans la surface. On réclame une main côté belge, ça va sûrement être revu par l'arbitre suédois de cette rencontre, monsieur Glenn Nyberg. Il est en train d'attendre des nouvelles par téléphone. Non, c'est bon, il a décidé que ça jouait, qu'il n'y avait pas de main de la part de Adrien Rabiot. Toujours 0-0 entre les Bleus et les Belges.
Le 8e de finale de l'Euro en fil rouge dans Radio Foot. On continue à parler de la Géorgie, donc, qui a quitté ce championnat d'Europe hier. Défaite avec les honneurs en 8e de finale contre l'Espagne. Avec une surprise dans l'équipe surprise, la touche africaine de cette équipe géorgienne, Adel Chedli, vainqueur de la CAN 2004 avec la Tunisie, ancien milieu de Sochaux notamment, ou encore de Nuremberg en Allemagne, un pays donc qu'il vient de retrouver sur le banc de touche aux côtés de Seignolle, banc de touche géorgien. Et oui, c'était lui, Adel Chedli, l'entraîneur adjoint de la Géorgie.
C'était important de montrer une très belle image de nous. Et je pense que c'est une chose qui a été faite. On est tombé sur une superbe équipe espagnole qui, pour moi, est la meilleure équipe du monde. Donc c'était vraiment difficile pour nous. Mais voilà, on a mis des choses en place. Je travaille ici avec un super coach que je connais depuis que je suis tout petit. Donc j'espère avoir fait plaisir au peuple africain et au peuple tunisien. Je sais ce que m'a donné la Géorgie aujourd'hui en tant qu'entraîneur. Chaque chose en son temps. J'apprends et un jour je tournerai dans le continent africain. Moi je suis là, je suis avec un super groupe, dans un super pays qui nous fait confiance et qui nous laisse travailler. Donc ça c'est le plus important.
Hervé Penaud, vous qui suivez de près le football africain et les internationaux africains en France, dans le championnat de France depuis plus de 20 ans, Adel Chedli, j'imagine que vous l'avez croisé, d'autant qu'il a remporté une CAN et que vous couvrez aussi les CAN. C'était en 2004. C'était il y a 20 ans.
Hein. Oui, mais le pire, c'est que j'y étais. Le temps passe. Mais non, c'est un type super, vraiment. Et à un moment, c'est vrai qu'il n'est pas de poste. Il recherchait un peu. Là, il a eu la possibilité, grâce à Seignolle, de pouvoir mettre le pied à l'étrier. C'est très, très intéressant. Alors, il tournait beaucoup, notamment, sur les anciennes stars, gloires du football africain, hein, qu'on amène de temps en temps sur les tournois, et évidemment il en faisait partie. Non, c'est un super gars, je suis super content. Quand je l'ai vu sur le banc, parce qu'au départ, pour être honnête, je ne savais pas qu'il était avec Willy Seignolle là-bas, mais ça m'a vraiment fait plaisir, parce que c'est vraiment un type bien.
Oui, c'est pas intuitif de se dire qu'une sélection géorgienne va être entraînée par un Français, encore moins qu'il y aura un ancien international africain. Alors c'est vrai qu'il a largement contribué au football français également sur le banc de touche à ses côtés. Si on parlait un peu de l'Espagne, David Lortolari, donc qui a éliminé la Géorgie, victoire 4-1. Une armada, véritablement, mais personne ne l'avait vraiment vu venir, oui. Même si on attend toujours l'Espagne, on ne l'attendait peut-être pas à ce niveau, avec sa défense made in France, décidément beaucoup de cocorico. En dehors des Bleus, Laporte, Le Normand pour la charnière centrale de la Rora, les fusées sur les côtés, Williams et Yamal. Et pour les mettre sur orbite, un milieu 3 étoiles, Rodri, Pedri et Fabian Ruiz. Alors là, il n'y a vraiment pas de quoi faire cocorico, parce qu'on ne le voit pas forcément à ce niveau du côté du Paris Saint-Germain. Ruiz, l'Espagne, 4 matchs, 4 victoires, 9 buts inscrits pour un seul encaissé. et encore un contre son camp, donc hier de Robin Lenormand. L'Espagne, c'est sans contestation possible la meilleure équipe de cet Euro pour l'instant, David Lortolari.
Hugo, c'est probablement celle qui aura fait la meilleure impression sur tous les matchs depuis le début. Il y a eu des choses peut-être un petit peu moins bien. Je me souviens au premier match, en discutant un peu entre confrères, on n'avait pas encore une conviction profonde. Et puis ça s'est creusé au fil du tournoi. Il y a quand même beaucoup d'ingrédients intéressants. C'est la vitesse de ces jeunes, avec ce brin de folie, notamment de Williams. Le buteur Morata qui fait son boulot, le milieu de terrain créatif, un gardien qui dépareille pas. Alors si on veut trouver quelques imperfections, c'est peut-être dans la défense, c'est peut-être aussi dans l'adversité qui va venir, c'est-à-dire ce milieu peut-être un peu féroce, avec notamment Robert Andrich, puisque c'est l'Allemagne le prochain adversaire. Donc c'est là qu'il faudra voir si l'Espagne peut régner sur le milieu de terrain. On nous annonce une possession de balle espagnole. Est-ce que les Allemands seront d'accord? Ça va être un choc forcément, mais il y a plein d'ingrédients qui sont dans le sens de l'Espagne aujourd'hui.
Le mot possession, c'est évidemment celui qui arrive très vite quand on parle du football espagnol et de la Rora en particulier, Vepeno. Mais cette équipe, elle est beaucoup moins dans la possession caricaturale et stérile qu'on avait encore vu lors de la dernière Coupe du Monde face au Maroc notamment. Ça va vite sur les côtés, ça joue un peu plus vite en transition, ça rime aussi avec possession. Et puis, c'est solide défensivement, quasiment pas de but encaissé.
Oui, c'est sûr qu'on a l'impression d'avoir le pur package pour essayer de remporter l'Euro. Alors on sait que ce ne sera pas simple, parce que se prendre dès les quarts de finale l'équipe d'Allemagne, c'est du solide, parce que du côté de l'Allemagne, il y a aussi des qualités. Mais aujourd'hui, sur ce qu'ils nous ont montré, l'Espagne fait quand même figure de favorite sur le tournoi, parce qu'ils ont à peu près tout. Alors je disais défensivement, alors c'est vrai que ce sont deux joueurs français qui n'ont jamais été appelés en équipe de France. C'est parce qu'ils ne sont pas en équipe de France, finalement, qu'ils ont choisi de prendre le maillot espagnol. Mais en prenant le maillot espagnol, ils donnent aussi une qualité technique à cette équipe derrière. C'est-à-dire qu'ils ont les caractéristiques de jeu qui vont bien avec l'équipe espagnole, qui aurait peut-être été un peu moins bien, parce que bah, on va jouer comme Laporte assez lent, mais et nous, on aime bien les gens un peu puissants, surpuissants, rapides, et dans l'esprit des champs. Donc finalement, ça correspond bien à ce qu'il y a dans cette équipe d'Espagne. Et c'est vrai que ce qui manquait ces derniers temps aussi, c'était cette espèce de puissance physique assez incroyable qu'ils peuvent avoir sur les côtés entre Yamal et Nico Williams. Et c'est vrai, ils font des différences, mais ils n'ont pas que ça. Ces joueurs-là qui sont surpuissants, ou peuvent éliminer très vite, donner de la verticalité au jeu, mais ils ont aussi la capacité à jouer même dans le petit périmètre les uns pour les autres, faire des déplacements intelligents. C'est une équipe pour l'instant qui a montré vraiment de grosses qualités.
Il y a les Français qui aident l'Espagne et les presque Espagnols qui aident la France, même si c'est pas cadré. Théo Hernandez qui a tiré, c'est peut-être une bonne première situation. Après une demi-heure de jeu, plus d'une demi-heure de jeu, il était temps, Antoine Grenier. À Düsseldorf, France-Belgique.
Elle est passée très largement à côté. Début de Koen Castells, cette frappe qui en était peut-être même pas vraiment une. Enfin, il n'a pas décidé entre la frappe et le centre, Théo Hernandez. C'est un petit peu à nouveau à l'image de l'inefficacité de l'équipe de France. Et je vous le disais tout à l'heure, de Jules Koundé qui, au lieu de frapper alors qu'il est à 2 mètres du but, décide de centrer. Bref, l'équipe de France a le ballon. Elle a fait le dos rond un petit peu parce que la Belgique a réussi à s'approcher ces derniers instants de son but sans se montrer non plus particulièrement dangereuse. Donc on a du mal pour l'instant à essayer d'établir un scénario dans cette rencontre. On a du mal à trouver Kylian Mbappé côté français. Antoine Griezmann a du mal à faire arriver ses passes et on ne voit pas trop Marcus Thuram. Attention à ce ballon pour Jules Koundé. Jules Koundé en position de centre, le bon centre, il est très très bon. La tête de Marcus Thuram qui passe encore à côté. Quelle occasion française vendangée par le numéro 15 de l'Inter Milan. Il avait réussi à prendre le dessus, le centre de Koundé était parfait pour une fois. Et sa tête passe à côté des buts de Koen Castells. Énorme occasion française gâchée par Marcus Thuram.
David Lortolari, pourtant, il a ses repères à Düsseldorf. Il n'a pas joué pour le Fortuna, c'est ça?
Oui.
Du côté de la Bundesliga. Mais il a joué en Bundesliga, Marcus Thuram, avant de rejoindre l'Inter Milan. Et peut-être qu'il aurait pu faire mieux. C'est peut-être la plus grosse occasion de cette rencontre après 34 minutes de jeu.
Ouais, super centre, la tête dans le tempo avec la puissance qui va avec. Le gardien ne pourrait rien faire si elle est cadrée, à moins que ça lui vienne dessus. On a cité alors Düsseldorf, super club en Allemagne. On a cité Nuremberg, qui est, dont Miroslav Klose vient de prendre les rênes comme entraîneur. Intéressant aussi. Je fais une petite digression.
on n'osait pas le dire.
Non, mais si, là, quand même.
Ancien club d'Andreas Köpke, ancien coéquipier
je veux dire, non, mais je veux dire aussi
de Marc Libra. Puisqu'on en est sur des digressions et une visite de l'Allemagne, hein, on y va.
Et alors moi j'aimais beaucoup Freudenstadt, la première ville où je suis allé en tant que jeune
allez,
enfant.
Revenons, Thuram, c'était Mönchengladbach hein, dans mes souvenirs. Alors pourquoi il ne marque plus en Allemagne, là, Thuram? Qu'est-ce qui lui est arrivé sur cette occasion?
À Mönchengladbach, c'était quand même très très bien au début. On comprenait qu'il allait savoir tout faire dans les années qui allaient suivre, aussi bien dans la vitesse du jeu au sol que dans le jeu aérien. Et puis ça s'est délité au fur et à mesure avec la sensation qu'il voulait partir et qu'il le faisait comprendre. Il n'avait plus la tête à ce club-là. Et alors c'est peut-être la preuve d'un caractère fort, je reste neutre sur cette question-là. Mais il a montré du très bon et du moins bon aussi à Mönchengladbach. Donc maintenant, à lui de confirmer qu'il peut marquer ce genre de but.
Bon, non, en tout cas, toujours 0-0, 36e minute de jeu à Düsseldorf, 8e de finale de l'Euro, France-Belgique. Évidemment, le vainqueur rejoindra les quarts de finale. Un quart de finale fait d'ores et déjà très envie. On connaît les deux protagonistes. L'Espagne, dont on a dit beaucoup de bien à l'instant, affrontera eh bien, ni plus ni moins que le pays hôte, l'Allemagne.
Einmal stehen bleibt mit links, denn Tor!
Et avant son rendez-vous de vendredi face à la Rora, l'Allemagne répare peu à peu ses torts avec des torts, donc des buts hein, dans la langue de Goethe. Havertz, Moussiala samedi pour se qualifier en quart de finale de son Euro, victoire 2-0 contre le Danemark. Un mauvais compte pour les coéquipiers du défenseur danois Andersen, ancien de l'OL, qui voit son but refusé à la 50e. La faute à un hors-jeu très 2024, hein, quelques centimètres avant de concéder. Toujours Andersen, le pénalty de l'ouverture du score sur une main. Tout ça, ça ne s'est pas passé dans la foulée, mais pratiquement, l'Allemagne s'en sort très très bien, mon cher David Lortolari.
Je suis d'accord, Hugo, je suis d'accord. Match bizarre avec l'interruption de 25 minutes, avec ce gros orage à Dortmund qui a rappelé les images qu'on avait vues avec Géorgie-Turquie une ou deux semaines avant. L'Allemagne s'en sort bien, c'est dramatique dans le sens théâtral hein, pour Andersen qui concède un hors-jeu de 5 petits centimètres avec son soulier, c'est complètement ridicule. Enfin, c'est robotisé, c'est l'arbitrage aujourd'hui.
C'est 2024.
La main, alors on me dit que ça dévie pas la trajectoire. Si, ça la dévie, donc c'est aussi pour ça sans doute que finalement on a décidé d'accorder pénalty sur ces fautes-là qui sont quand même là aussi très très théâtrales. Très discutable. L'Allemagne s'en sort avec Havertz qui a une meilleure cote en Allemagne qu'en France, je l'observe. On est très critique ici en France sur son niveau comme avant-centre, comme joueur attaquant de pointe. En Allemagne, on est un peu plus tolérant vis-à-vis de ça. C'est aussi pour ça, sans doute, que le sélectionneur continue de lui donner du crédit. Et puis Moussiala, ça y est, il a emballé tout le monde. Alors ça date pas de cet Euro, mais...
Pour l'instant, il est l'un des meilleurs buteurs de la compétition avec 3 réalisations.
Oui, ça ressemble à un sauveur, ça ressemble au petit chouchou, ça ressemble au joueur qu'on voudrait qu'il soit le joueur du tournoi si l'Allemagne devait aller loin. Et ces ingrédients-là ont suffi pour l'instant. Contre l'Espagne, allez, c'est très... comment dire, c'est très diplomatique, mais j'ai écouté un peu les sons de cloche depuis la qualification des deux équipes. Et en Allemagne, on dit 50-50, sous-entendu... Attention à l'Espagne.
On se souvient tout de même qu'Havertz, il avait marqué, on peut le critiquer, mais il a marqué en finale de Ligue des Champions, lui, un but décisif pour 2021 face au Manchester City de Pep Guardiola, un entraîneur espagnol. Peut-être que ça lui donnera des idées avant le quart de finale qui s'annonce ô combien indécis entre la meilleure équipe et ce qui aurait été encore il n'y a pas si longtemps le vainqueur par défaut. L'Allemagne à domicile, ça semblait l'ogre total. L'Allemagne a connu ses mésaventures dernièrement dans les tournois, notamment des éliminations précoces lors des deux dernières Coupes du Monde. Hervé Penaud, est-ce qu'elle vous rassure, cette Allemagne, avant d'affronter la terrible Espagne?
Alors pour tout vous dire, j'en faisais mon favori avant le début de la compétition, parce que j'avais la sensation que c'est une équipe qui avait à peu près tout en magasin, même s'il y a quelques défauts, notamment défensifs, pour s'interroger. Là, le problème, c'est qu'ils sont contre un adversaire largement plus fort. Enfin, largement plus fort. Disons, collectivement, c'est une équipe qui fonctionne un peu mieux. Ils ont montré quelques petites faiblesses, à mon avis, à la perte de la balle, avec notamment une défense qui peut être mise assez vite hors de position. Et ça peut être un vrai souci, un vrai handicap face à une équipe espagnole. Donc, il faudra faire très attention. Mais d'un autre côté, ils jouent à domicile. Il y a quand même Nagelsmann, qui a une sorte de certitude d'assurance permanente. Je suis sûr qu'il doit dire à ses joueurs, parce que je ne sais même pas pourquoi on les joue, parce qu'on sait déjà gagner. Ils ont des talents incroyables. Wirtz, Musiala, etc. sont des joueurs. Alors Havertz, lui, fait travailler un peu pour les autres, parce qu'il fait beau, il court énormément. Ce n'est pas le joueur le plus juste devant le but. Mais en revanche, si Wirtz et si Musiala sont dans un bon jour, on ne sait jamais. Parce que la qualification, évidemment, ça s'est joué à très très peu de choses. Alors moi, je suis un peu moins dur avec l'histoire du hors-jeu, parce qu'il y a une règle qui est simple, même que ce soit 5 cm, 15
mètres. Oui, elle a été appliquée, ça c'est vrai.
Voilà. Parce que sinon, on n'en sort plus jamais. Hein.
Non, j'ai dit que c'était en tout cas très 2024 avant.
Le VAR
précision géométrique, c'est
absolument. Mais le VAR change de toute façon le tournoi, comme il avait changé la CAN. C'est-à-dire que là, il y a eu plein de buts qui ont été refusés. On s'est rendu compte parce qu'il y a des petits hors-jeux, des fautes avant, précédentes, etc. Donc évidemment, ça permet d'avoir un truc un peu plus clean d'une certaine manière. Mais quant au pénalty, moi je vois pas tellement comment on peut dire qu'il n'y a pas pénalty, parce qu'il y a la main qui est vraiment décollée, il y a centre. Bon, voilà, c'est malheureux, c'est pas de chance hein, d'une certaine manière. Mais même si c'est pas de chance, il y a quand même, à mon avis, pénalty. Ils s'en sortent pas mal, on va dire, les Allemands. Je trouve que ça va être vraiment le test majeur. S'ils arrivent à s'en sortir là contre les Espagnols, quand je disais que c'était les favoris, là je resterai dessus après. Mais ça va être dur parce que du côté de l'Espagne. C'est costaud, ouais.
Mais on peut quand même féliciter les Danois. Pas grand-chose de pourri au Royaume du Danemark. Plutôt quelque chose d'encourageant, même si on ne réitérera pas la grande performance du précédent Euro et cette demi-finale à Wembley face à l'Angleterre, dont on va parler dans quelques instants. Mais avant, il y a un concours très, très impressionnant de tirs au pigeon du côté de Düsseldorf, avec des Français qui ne règlent pas la mire, mais qui multiplient les assauts.
Nous allons tuer 3.
Un tir au pigeon où c'est les pigeons qui s'en sortent le mieux, parce que les Français font toujours preuve d'une certaine maladresse. La frappe de Tchouaméni à la 40e minute sur une belle occasion, c'était ce qu'il fallait faire, mais Loïs Openda, l'ancien Lensois, est venu gêner un tout petit peu Tchouaméni, donc sa frappe au milieu de terrain du Real est passée juste à côté de la lucarne, début de Koen Castels. Et puis juste après, une nouvelle occasion française avec Marcus Thuram pas loin du tout de pouvoir reprendre le ballon sur la ligne des 6 mètres en pivot, et finalement ça a filé jusqu'à Jules Koundé, qui à nouveau à 2 mètres dans un angle fermé, a décidé de ne pas frapper et de centrer. Résultat offensif manqué pour les Bleus. Toujours 0-0 entre la France et la Belgique dans le 8e de finale à Düsseldorf, avec un siège stérile de la part de l'équipe de France ces dernières minutes sur le but des Diables Rouges.
Hervé Penaud, c'est quoi? C'est un miroir inversé de 2018, avec des Français en possession stérile et des Belges qui attendent la contre-attaque, et ça n'avait pas vraiment souri aux Belges, la configuration inversée il y a 6 ans.
Oui, mais c'est assez drôle parce qu'on a vu les Belges venir quand même avec une équipe à première vue offensive, hein, puisque vous prenez 3 attaquants, 2 milieux de terrain.
Et on sait que la France aime bien contrer, voilà, donc on s'attendait à autre chose.
Ils ont décidé de jouer avec un système quand même qui semblait offensif, mais en fait, ils jouent un bloc bas. Donc effectivement, les Français ont beaucoup de difficultés, parce que je trouve que c'est quand même très très stérile et il y a très peu de création d'occasion. C'est une équipe de France, on a l'impression collectivement, ils n'arrivent pas tellement, ils changent tellement de système, on a l'impression que les joueurs ne se trouvent pas tellement sur le terrain.
Si il a titularisé Openda, Tedesco, si on regarde bien ce qu'a fait Openda avec Leipzig, ça part quand même beaucoup de son camp et c'est des contre-attaques saignantes. Donc c'est peut-être aussi l'idée avec ce joueur-là, pour la Belgique, peut-être d'être un peu plus bas, de donner une espèce de trompe-l'œil et de laisser partir ce genre de joueur en contre-attaque.
Antoine Grenier, on s'approche de la pause à Düsseldorf.
Oui. Exactement, et la stratégie que décrit David Lortolari est exactement ce que Domenico Tedesco a dû expliquer à ses joueurs, parce que vous avez certes Loïs Openda, mais vous avez aussi Jérémy Doku qui a fait beaucoup de mal sur son côté gauche depuis le début de la rencontre à l'équipe de France. Attention à ce long dégagement, Romelu Lukaku dans la surface, le contrôle, et il essayait de glisser ce ballon à Openda justement, et la faute de Kevin De Bruyne pour mettre fin à l'offensive belge. On en reste à 0-0 entre les Français et la Belgique.
On vous retrouve dans quelques instants, Antoine Grenier à Düsseldorf, pour le 8e de finale de l'Euro, qui ne tient pas exactement toutes ses promesses, en tout cas en termes de spectacle et de but. France-Belgique 0-0. Je vous rappelle les autres résultats importants de ce week-end, les qualifications pour les quarts de finale de l'Euro de l'Angleterre, qui a battu la Slovaquie 2-1, et de la Suisse. D'ailleurs, Angleterre et Suisse s'affronteront. La Suisse qui a sorti l'Italie, tenante du titre. Alors ne vous inquiétez pas, on va en parler de tous ces matchs. Pas tout de suite, mais Radio Foot revient. C'est l'Euro, c'est cadeau. À 21h10, temps universel en direct. Et on débriefera les dernières affiches du week-end sur lesquelles on n'a pas eu le temps de revenir cet après-midi. Hervé Penaud, vous levez
oui,
la main.
Oui, absolument. Parce que vous dites, ça ne tient pas ses promesses. Ou alors, ça confirme ce qu'on a vu depuis le début. Parce qu'on retrouve l'équipe de Belgique qu'on connaît, plus ou moins moyenne, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire. On les attendait à un niveau un peu plus élevé. Et l'équipe de France qui n'arrive pas à se trouver. C'est des joueurs un peu perdus sur le terrain qui tentent l'exploit individuel, parfois une frappe de loin. Alors, il y a eu 2-3 occasions via Koundé qui a pu prendre son couloir droit. Mais il se passe pas, ou alors Théo Hernandez. Mais il se passe vraiment pas grand-chose.
Allez, on va vivre les derniers instants peut-être de cette première période, Antoine.
Le siège... La frappe de Tchouaméni, l'excellent travail de Kylian Mbappé sur le côté de la surface. Il a réussi à échapper à son défenseur. Kylian Mbappé a glissé le ballon. Antoine Griezmann le laisse astucieusement passer. Tchouaméni à l'entrée de la surface qui frappe et qui ne trouve pas le cadre alors qu'il est à 15 mètres du but de Koen Castels. Encore une occasion ratée pour l'équipe de France. Ils vont s'en vouloir, les Bleus, au retour des vestiaires si le score en reste là, parce qu'ils ont dominé cette première période. Mais alors, de la tête et des épaules, les meilleures occasions sont tricolores, mais toujours 0-0 entre la France et la Belgique.
Le vengeur, le justicier masqué Kylian Mbappé n'en revient pas. On le voit sur les images. Il avait effectué un travail spectaculaire, David Lortolari, et en retrait pour Tchouaméni, qui avait presque tout loisir d'ajuster le cadre bien ouvert. Et puis le tir au pigeon. Décidément, la spécialité à Düsseldorf. Mi-temps
à l'instant, sifflé par l'arbitre de cette rencontre sur ce score pas si nul, mais vierge quand même, 0-0 entre l'équipe de France et la Belgique, des Bleus qui auront dominé cette première période, je vous le disais à l'instant, avec une première occasion dès la 10e minute et le gardien Koen Castels mis à contribution par Antoine Griezmann. Les frappes de Tchouaméni n'ont pas trouvé la mire. Les têtes de Thuram non plus, à deux reprises chacune, qui sont allées, pour la plus grande joie des supporters belges derrière le but de Koen Castels, qui sont allées dans les tribunes. Les Français vont devoir cadrer un petit peu plus. Se créer des occasions, c'est bien. Il va falloir essayer de les mettre. Ce n'est pas une spécialité française dans ce début d'Euro.
Petite pause pour vous également, Antoine Grenier. On vous remercie d'avoir été en direct avec nous dans ce Radio Foot. On vous retrouve pour la deuxième émission, la deuxième période, mais notre deuxième période à nous à 21h10 temps universel. Quant à la deuxième période du 8e de finale entre la France et la Belgique, vous continuerez à la suivre en fil rouge après cette émission. Mais l'information va un peu reprendre ses droits sur RFI. Après, évidemment, le premier tour et les résultats édifiant, pas forcément dans le bon sens du terme, encore que je ne vais pas commenter et donner mon avis. Des élections législatives, premier tour hier et le RN largement en tête. On referme la parenthèse, on revient au football. Votre bilan, non pas
ah oui, pas le bilan
politique,
des élections, moi,
je vais vous laisser tranquille.
Oui,
ce serait plus long que 10 minutes,
Hervé Penaud, mais besoin de temps.
Votre bilan, d'une France métissée qu'on aime sur le papier. Bon, sur le terrain, c'est peut-être un peu moins ça. Il faudrait être un peu plus précis. 0-0.
Moi, je suis assez déçu quand même par cette première mi-temps. Mais toujours cette impression qu'on n'a pas trouvé aujourd'hui collectivement quelque chose qui permette de mettre en valeur la qualité individuelle de nos joueurs. Et attention, là, je ne mets pas non plus que ça sur le dos de Deschamps. Parce qu'il faut voir aussi que Griezmann est totalement invisible. Thuram, quasiment sert à rien. Mbappé, ben vous espérez toujours l'étincelle, ce qu'il a failli faire sur un coup de boutoir, j'allais dire, en fin de première période, parce qu'il dribble deux joueurs, mais il y a un compte, ça revient dans les pieds de Tchouaméni. C'est pas très fluide, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pour l'instant, tous ces joueurs-là ne sont pas au niveau auquel ils devraient être pour avoir une équipe de France très performante. Et c'est quand même assez incroyable qu'on voit plus des joueurs défensifs que ces joueurs-là, dont on attendait beaucoup. Il suffit de regarder le bilan, c'est relativement simple. Vous avez mis un but sur pénalty et un autre, c'est un CSC. Bah, c'est pas folichon.
Oui, David Lortolari, c'était, je l'ai déjà dit, une demi-finale d'Euro il n'y a pas si longtemps. Ça a été aussi une finale ou une demi-finale de Ligue des Nations, je ne me souviens plus exactement, en 2021. Et là, c'est un huitième de finale France-Belgique et on a du mal à imaginer que ce soit un choc vraiment de titans. On a du mal à imaginer qu'il y a le futur vainqueur de l'Euro sur le terrain à Düsseldorf.
Oui, alors il y a d'autres équipes de standing européen qui sont décevantes, voire très décevantes. On a l'Angleterre à l'esprit, on a l'Italie éliminée. Il y a des équipes qui n'ont pas montré ce qu'on attendrait d'elles. Ce que je semble voir sur le visage des Belges qui rentraient au vestiaire, c'est quand même peut-être ce petit supplément de niaque. Peut-être que c'est aussi le ressort de cet épisode difficile de la dernière élimination contre les Bleus, ce 0-1 qui avait fait si mal aux Belges, peut-être que ça a été un moteur de leur motivation aussi. Et puis, alors, on parlait avec l'ami Marc Libra il y a quelques jours du duel que Lukaku pourrait mener avec la défense centrale française. Attention à ce que ce soit pas sur une action que ça bascule, qu'il n'y ait pas un... Voilà, parce qu'à 0-0, match malgré tout assez fermé. C'est peut-être le genre de duel qui peut faire la décision. On aimerait que ça soit plus ouvert, évidemment, et qu'il y ait plus d'actions qui aillent au bout pour que le match s'ouvre définitivement.
On suivra ça en fil rouge sur RFI dans quelques minutes. Mais d'ici là, il nous reste... nous, on n'est pas en mi-temps, on n'est pas en pause. Il nous reste à conclure en beauté notre émission à nous. Radio Foot International sur RFI. On va parler d'une autre place forte du football européen, pas franchement convaincante depuis le début de cet Euro, à savoir... le Portugal.
Há ali passe sem mais condições, a bola interceptada. Mikael Tade, lá vai ele, Mikael Tade, o passe. Olha o remate, gol! Primeira vez à baliza de Portugal.
C'est terminé, c'est fini. Le Portugal s'impose 3-0 face à cette équipe turc et le Portugal de Cristiano Ronaldo est en route vers les huitièmes de finale de cet Euro.
Le Portugal en mode Cerbère en Allemagne. Le pays de Ronaldo n'a pas forcément trois têtes comme le chien mythologique, mais trois visages. Moyen face à la République tchèque, 2-1. Convaincant face à la Turquie, 3-0. Mauvais et battu, 2-0 face à la Géorgie. Voilà pour la phase de poule, 2 victoires, 1 défaite, 0 but pour un certain Cristiano et une Seleção qu'on a encore du mal à situer. Bonjour Marco Martins.
Bonjour Hugo.
Journaliste, on l'a entendu, lusophone et de la rédaction lusophone de RFI. Vous êtes à Francfort pour assister tout à l'heure au 8e de finale Portugal-Slovénie, coup d'envoi 19h, temps universel. Un quart de finale ferait du bien à un pays, le Portugal, qui déçoit un peu trop régulièrement depuis son Euro 2016 remporté en France. On n'oublie tout de même pas la Ligue des Nations qu'il s'est adjugé en 2019, mais c'est tout de suite un peu moins impressionnant. Si l'on se réfère au match de poule de 7 Euro 2024, Marco, quel est selon vous le vrai visage de la Seleção?
Bah pour commencer, c'est intéressant de voir que cette sélection a quand même battu un record, encore un historique en fait. C'est que le Portugal n'avait jamais réussi à remporter deux rencontres lors d'une phase de groupe de l'Euro, surtout depuis que l'Euro est passé à 24 équipes, c'était en 2016, et a terminé également premier. C'était la première fois, hein, les deux autres fois en 2016.
On se rappelle qu'en 2016, il y a victoire au bout, mais c'est trois nuls hein, pour commencer.
C'est ça. Donc, en fait, c'est mi-figue, mi-raisin, parce que quand on regarde les résultats, on se dit, bah, le Portugal n'a jamais réussi de tels résultats durant une phase de poule. En plus, le dernier match, c'était vraiment avec une équipe B. Il n'y avait que trois titulaires. Et au bout des 45 premières minutes, eh bien, João Paulinho est même sorti de peur qu'il n'écope d'un carton jaune et qu'il soit suspendu pour ce huitième de finale. Donc, en fait, c'est vraiment ça. C'est un peu ce sentiment de, eh bien, le Portugal a réussi deux victoires, mais a également peiné face à une Géorgie qui est franchement plus d'une deuxième division européenne. Donc il n'y a pas de banc. C'est surtout ça, ce que ressort de l'opinion de la plupart des spectateurs qu'on a pu croiser.
Oui, parce qu'on a fait tourner face à la Géorgie.
Exactement. Donc il y a une équipe, il y a un 11 qui se dessine et qui est pratiquement acquis ce soir, si Roberto Martinez ne crée pas encore la surprise, hein, parce qu'on pensait après le premier match face à la Tchéquie, vous l'avez dit, un match assez moyen avec une défense à 5, tout le monde s'était dit, eh bien, il ne va plus utiliser cette tactique, mais il l'a ressorti face à la Géorgie. Donc on n'est pas à l'abri d'une nouvelle surprise de Roberto Martinez. Mais je pense tout de même qu'il a compris, et même les joueurs, et Pep, Bruno Fernandes, Bernardo Silva ont quand même bien fait comprendre à leur sélectionneur que la tactique qui marchait le mieux, c'était quand même celle face à la Turquie. Donc une défense à 4, 3 milieux de terrain, 3 attaquants pour essayer de rééditer ce qu'ils ont fait face à cette sélection turque. Et attention, la Slovénie est en confiance. Pas par rapport à ces trois précédents matchs, ces trois matchs nuls. Non, par rapport à ce qui s'est passé en mars dernier à Ljubljana, où la Slovénie avait battu le Portugal en match amical sur le score de 2-0.
Bon, c'était un amical. Aujourd'hui, c'est l'Euro, Hervé Penaud. Mais ce que je retiens notamment dans l'intervention de Marco, c'est que...
Très bonne intervention, Marco.
Excellente intervention. C'est que y a beaucoup de cadres, hein, dans cette équipe du Portugal, et notamment un certain Cristiano, mais aussi Pep. Voilà, des joueurs expérimentés. Est-ce que ça va toujours bien entre eux? Ça, je sais pas. Mais c'est une force. C'est aussi une difficulté pour un sélectionneur Martinez qui est un peu qui aime bien jouer un peu aux apprentis sorciers tacticiens, mais là il va peut-être devoir être un peu plus modeste dans ses ambitions, parce qu'il y a une équipe et des tauliers, des joueurs avec un palmarès formidable qui savent aussi prendre les choses en main. Vous situez ça comment? Elle est difficile à situer, cette équipe du Portugal.
Elle est difficile à situer, mais il y a de sacrés joueurs. Hein. Sur le papier, c'est quand même une grosse équipe. Alors même l'équipe B, évidemment, a été battue. Mais je pense qu'il ne faut pas jeter tout non plus dans cette fameuse équipe B. Alors Cristiano Ronaldo, le problème de Cristiano Ronaldo, c'est qu'à une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, on nous expliquait que finalement, il serait peut-être le remplaçant de Gonzalo Ramos. Puis finalement, non. Parce qu'un type comme ça, il a tellement envie de gagner. On savait, quand il est arrivé Martinez sur le banc du Portugal, il s'est rendu compte que c'était quelqu'un qu'on ne mettait pas dehors. Pas par son lié à son statut, mais lié à son niveau. C'est quelqu'un qui est capable de vous marquer de but. Et Pep, c'est exactement pareil. C'est qu'ils ont montré, encore même à Porto, qu'il avait un niveau qui lui permettait d'être titulaire. Alors c'est vrai qu'en contrepartie, vu le poids qu'ils peuvent avoir dans la sélection, des joueurs de ce type, quand vous êtes entraîneur, vous êtes obligé de faire avec. Et celui qui doit le remplacer doit être vraiment meilleur, parce qu'il doit apporter quelque chose de nouveau, de neuf. Et visiblement, il n'a pas trouvé quelqu'un qui était meilleur que ces deux joueurs-là, sur un plan plus global.
Les statistiques sont sans appel sur les qualifications entre Ramos et Ronaldo. C'est largement en faveur de Cristiano Ronaldo. David Lortolari, vous la voyez comment, cette équipe du Portugal, entre peut-être son choc des générations, entre ce nouvel entraîneur qui doit faire avec ses cadres, ses statistiques plutôt enviables, hein, les deux premières victoires. Et en même temps, l'idée qu'on n'est pas totalement convaincu, surtout au vu du potentiel de cette équipe.
Ouais, la bouteille de ketchup de Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire ça vient pas, ça vient pas. Puis on attend le feu d'artifice. Il y a des joueurs formidables, les deux latéraux, Nuno Mendes, João Cancelo, c'est super. Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leao est plus décevant. Et il y a un petit problème peut-être pour le Portugal, c'est que l'adversaire, Hugo, il y a un super gardien qu'on a apprécié tellement avec l'Atlético de Madrid, c'est Oblak en face dans l'équipe de Slovénie. Et puis Šeško, je le vois de plus en plus performant avec Leipzig, mais j'étais surpris de voir qu'il est si rapide. Je ne m'attendais pas, j'ai regardé les statistiques, et il peut faire mal à un défenseur de 40 ans. 41.
Allez, en une minute, Marco Martins, Ronaldo face à Oblak, un duel qui fleure bon la Liga des grandes années. Il va débloquer son compteur et marquer, je crois que ce serait... il marquerait dans 6 euros différents s'il ouvrait son compteur. Cristiano Ronaldo, vous le sentez, c'est pour ce soir?
C'est possible. On rappelle que Cristiano Ronaldo a été formé au Portugal, mais je dirais également que Yann Oblak a été formé au Portugal. Il a été formé à Benfica quand il est arrivé à l'âge de 15-16 ans. Donc, ce sont des joueurs qui connaissent bien le championnat portugais. Et j'ai envie de dire que plusieurs de ces joueurs-là l'ont côtoyé. Oblak est peut-être qu'ils savent également comment réussir à passer cette barrière infranchissable. Mais Cristiano Ronaldo, oui, peut peut-être marquer, mais il faudra que Bruno Fernandes et Bernardo Silva soient un peu plus à son service, en tout cas sur ce match-là, s'ils veulent que le capitaine ouvre enfin son compteur.
Bah, vous irez leur dire, hein. Moi je ne me risquerai pas à leur expliquer qu'avec leur talent et leur aura, ils doivent se mettre au service de Cristiano Ronaldo, tout Cristiano Ronaldo fut-il. Merci beaucoup Marco Martins, et on se retrouve pour le deuxième Radio Foot, le retour de l'émission en direct à 21h10 temps universel. Je salue et je remercie Hervé Penaud et David Ortolari qui m'ont accompagné. On se retrouve donc tout à l'heure sur les antennes de la Radio du Monde, 21h10 temps universel. En attendant, une excellente soirée, le retour de l'information sur RFI.